c'est qu'elle est nounou de deux enfants. Elle rentre dans la chambre et les enfants ils veulent pas faire la chambre. Et ils veulent pas la ranger et tout. Et elle, elle arrive en un claquement de doigts, elle range tout et ça devient tout propre.
Et ils vont sur les toits, sur la fumée et tout. Et ils dansent. Ils vont sur un manège et que les chevaux se détachent du manège.
Je pense que ce dont tout le monde se souvient, c'est surtout le parapluie. Genre, l'image du parapluie, elle arrive devant la maison et tout.
Et elle vole.
Aussi, elle avait un sac là où elle mettait tout dedans. Genre, ouais. elle mettait toute sa baraque dedans, genre la meuf.
Elle peut prendre des objets qui sont plus gros que son sac.
Ah, aussi, il y a un moment, c'est dans le film, il y a un moment, c'est un dessin animé.
Ou c'est un théâtre. Et aussi, je m'en souviens que quelqu'un, en fait, il riait tellement qu'il s'envolait au plafond. Hein.
Alors, moi, tout ce que je me souviens, c'est qu'elle a une formule qu'elle dit et tout. Tragilie, un truc comme ça.
Et après, en fait, c'était marrant.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si on vous proposait un pouvoir magique, lequel choisiriez-vous ? Lire dans les pensées des gens, se téléporter, devenir invisible, les idées ne manquent pas en tout cas. Mais auriez-vous songé à répondre « Moi, je veux pouvoir ranger un porte-manteau, un grand miroir et une plante verte dans mon sac ?» Non, franchement. Et pourtant, quand on parle du sac de Mary Poppins, ce pouvoir est bel et bien magique, enchanteur et merveilleux. Parce que cette nounou a le pouvoir de mettre de la magie dans les choses les plus banales de la vie quotidienne. Passons une heure avec Mary Poppins, voilà ce que je vous propose. Personnage de roman d'abord, la nounou au parapluie devint ensuite une héroïne de cinéma, grâce à Walt Disney. C'est un film dont les parents se souviennent souvent avec émotion, alors ils le montrent à leurs enfants. Et ça tombe bien, parce que cette histoire nous rappelle quelque chose de tout simple, mais essentiel. Les enfants ont besoin d'attention, d'affection et de fantaisie. Peut-être même d'un peu de magie. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Cette émission est préparée par Mao de Butler, réalisée par Christophe Imbert. Élise Christophe et Renaud Ricard sont à la technique et j'accueille deux invités. L'une est en duplex depuis Bayonne, l'autre est ici en studio. Bonjour Hélène Druvert.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes avec nous dans les studios de France Bleu Pays Basque. Vous êtes autrice et illustratrice de livres pour enfants. Vous avez publié il y a quelques années Un petit tour avec Mary Poppins aux éditions Gauthier-Langros. Votre ouvrage le plus récent, édition La Martinière Jeunesse, est intitulé Le Ciel. C'est une exploration de la voûte céleste avec des textes signés Juliette Haynorn. La particularité de vos livres, Hélène Druvert, c'est que vous faites de la dentelle. Vous imaginez de très fins découpages dans les pages, vous racontez des histoire par un jeu d'ombre chinoise d'une grande délicatesse. Ça donne des bouquins précieux, très fragiles, mais aussi magnifiques. Les pages consacrées notamment aux différents nuages dans le livre sur le ciel sont splendides. Et je me suis dit, vous avez forcément pensé à Mary Poppins en travaillant sur les nuages, non ?
Ah oui, exactement. Parce qu'en plus, pour Mary Poppins, j'avais déjà travaillé sur la voûte céleste. Mmh. Donc bien évidemment, quand j'ai travaillé sur le ciel, j'ai pensé à Mary Poppins et à son envol avec son parapluie. Parce que dans ce livre, on s'envole aussi un petit peu.
Vous avez été tentée de la glisser quelque part, non ? La silhouette de la nounou au parapluie ?
Alors non, parce que du coup, vu que c'était un livre documentaire, là, pour le coup, j'essaye d'amener de la magie dans vraiment du réel.
Ça aurait pas été très crédible scientifiquement.
Voilà.
Bonjour Laurent Mignard.
Bonjour.
Très heureuse de vous recevoir. Vous êtes chef d'orchestre. On va explorer avec vous le volet musical de ce film, très important évidemment. Vous êtes à la tête du Duke Orchestra, un orchestre consacré à l'œuvre de Duke Ellington. Et vous avez créé un magnifique spectacle intitulé Jazzy Poppins.
C'est le morceau de sucre qui est de la médecine à couler. La médecine à couler. Médecine à couler, juste un morceau de sucre qui est la médecine à couler. Ça vous rend la vie plus belle.
Extrait d'un enregistrement chez nos camarades de France Musique, 42e rue de Laurent Vallière. Sophie Kaufmann interprète le morceau de sucre. Sauriez-vous dire, Laurent Mignard, pourquoi les chansons de Mary Poppins sont aussi efficaces, quelle que soit la manière dont on les interprète?
C'est très compliqué cette question. Si les compositeurs de chansons connaissaient la recette, ils feraient toujours des tubes. On va dire qu'il y a quand même plusieurs aspects, sans doute. Le premier, c'est que ces chansons sont reliées à un univers qui nous parle. Et souvent, les chansons qui fonctionnent et dont on se souvient sont des chansons qui relient à un souvenir. Ça peut être les premiers amours d'été, ça peut être un souvenir d'enfance, ça peut être une comptine, quelque chose qu'on a découvert avec ses parents, ses grands-parents. Et puis, il y a aussi autre chose qui est que les mélodies sont extrêmement simples, répétitives, et on sait depuis Johann Strauss et le grand Danube bleu que plus on répète un motif, plus il y a de chances qu'il rentre dans le crâne des gens.
Les chansons du film Disney sont signées des frères Sherman, mais il y a un lien très fort, Laurent Mignard, entre Duke Ellington et Mary Poppins.
Oui, ça c'est une incroyable histoire, aussi incroyable que l'histoire du film Mary Poppins que vous allez sans doute raconter un petit peu plus tard. Mais il se trouve que en 1964, quand Walt Disney était sur le point de sortir le film, il savait que les chansons des frères Sherman étaient des merveilles, mais il avait un petit doute sur le fait que son film puisse avoir un grand succès international. Il s'est adressé à Duke Ellington, qui était le plus grand compositeur de jazz de tous les temps, plus grand chef d'orchestre, et il lui a dit « Duke, voilà, je m'adresse à vous parce que je voudrais que ces chansons qui sont vraiment très belles puissent avoir immédiatement une reconnaissance internationale et je vous donne carte blanche, je vous donne tous les droits pour pouvoir faire un album à votre idée de ces chansons des frères Sherman. » Ellington a relevé le défi, il a adoré les chansons, il n'a pas voulu voir le film pour se faire sa propre idée des chansons et il a distribué les chansons sur ses solistes pour qu'ils incarnent en fait des personnages tels que lui se les imaginait.
Et c'est ainsi qu'il y a un fantôme de jazz qui plane sur ce film.
Mais c'est-à-dire que le jazz, il est au départ chez les frères Sherman, mais c'est un peu à la façon Broadway comédie musicale, c'est pas vraiment du jazz en fait. Quand Ellington se l'approprie, ça devient vraiment du jazz. Et il enregistre l'album à Chicago dans les tout premiers jours de septembre, juste après la sortie du film. Et l'album sort chez Reprise en 65 et ça devient un succès absolument incroyable et qui a d'ailleurs contribué. C'est l'un des plus gros succès d'Ellington, un album qui s'appelait Duke Ellington Plays Mary Poppins et qui a énormément contribué également à ce que les chansons deviennent un grand succès.
Le film, vous le disiez, est sorti en 1964. C'est l'adaptation d'un roman, on le sait peu, roman de Pamela Lyndon Travers. Le film fut un succès immense à sa sortie. Il est réalisé par Robert Stevenson. C'est le dernier film supervisé par Walt Disney lui-même, qui meurt 2 ans plus tard. On dit souvent d'ailleurs que c'est le film testament de Disney. Et cette adaptation, l'histoire est très jolie, était une demande de sa fille Diane. La fille de Walt Disney avait lu le roman de Pamela Travers, elle avait supplié son père de l'adapter au cinéma. Mais il ne fut pas simple d'en obtenir les droits, très loin de là. Pamela Travers était réticente. Les coulisses de la création de ce film donnent encore plus de charme à cette histoire. Vous ne trouvez pas, Hélène Druver?
Oui, oui, c'est vrai que c'est assez incroyable, toute cette histoire qu'il y a eu autour du film et du livre, parce que Pamela Travers, c'était vraiment un personnage aussi à part entière.
On dit souvent qu'elle était très caractérielle.
Oui, je crois qu'en effet, elle était un peu particulière. Je pense qu'on retrouve des traits d'elle dans Mary Poppins, dans les livres. Parce que dans les livres, Mary Poppins est nettement moins aimable que dans le film.
Elle a mis presque 20 ans à céder les droits de son histoire à Walt Disney. L'histoire est dingue.
Oui, et puis surtout, elle était furieuse à la sortie du film, puisqu'elle a considéré que Disney avait transformé son personnage pour en faire un personnage de comédie charmant, un petit peu falote, alors que pour elle, une gouvernante, ça doit éduquer les enfants, ça doit être sérieux et rigoureux. Non, non, ça s'est très mal passé pour elle. Mais je vais vous dire, je pense que pour tous ceux qui ont lu les romans...
Il y en a six.
Les romans originaux, qui sont en fait des suites de nouvelles, de Mary Poppins originales, en fait, si ça avait été adapté au cinéma tel quel, il n'y aurait eu absolument aucun succès. Walt Disney en a fait un charme et une magie, de mon point de vue, qu'il n'y a pas dans les livres, pas à ce point en tout cas.
Vous êtes d'accord avec ça, Hélène Druver?
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Moi d'ailleurs, ça a été la surprise quand j'ai découvert les romans, parce que moi je suis partie des romans pour faire mon livre. Et du coup, on n'a pas du tout cette fantaisie qu'a mis Walt Disney. Et je suis d'accord, je pense que si Mary Poppins avait été interprétée de la même façon que les livres, ça n'aurait sans doute pas fait rêver autant.
Le film, d'ailleurs, est un mélange de prises de vue réelles et de séquences d'animation, ce qui a beaucoup déplu à Pamela Travers. Elle ne voulait pas d'un dessin animé dans ce film. Alors, Mary Poppins s'est tombée du ciel, une nounou providentielle pour des parents débordés. Les deux enfants de la famille Banks sont aux anges quand elle débarque, mais tout de suite, les enfants s'inquiètent. Mary Poppins restera-t-elle toujours avec eux ?
Mary Poppins, vous ne nous quitterez plus jamais ?
Avez-vous un mouchoir sous votre oreiller ?
Vous resterez si on vous promet d'être gentil.
Oh, c'est une promesse sur le sable, vite faite et vite effacée.
Mais ça vous, qu'est-ce qu'on deviendrait ?
Je resterai jusqu'à ce que le vent tourne.
Mary Poppins, jusque-là, ça fait combien ?
Silence, je vous prie, il est l'heure de dormir.
Oh, c'est pas possible qu'on s'endorme, après toutes les belles choses qui sont arrivées aujourd'hui.
Ah oui.
Oui, quand on a sauté d'un tableau que Berthe a fait à la crèche. Et après, dans le manège, quand on a sauté sur le dos des chevaux de bois. Et on a galopé tous les quatre dans les champs. D'ailleurs,
Vraiment.
Mary Poppins, vous vous rappelez pas ? Vous avez gagné la course de chevaux ?
Une respectable personne comme moi dans une course, c'est une idée que je trouve très choquante.
Mais je l'ai vue, j'en suis sûre.
Encore un seul mot sur ce sujet et j'appelle un policeman. Est-ce clair ?
Je sais que c'est arrivé, j'en suis sûre.
Il est l'heure de dormir.
Non, il n'y a pas de raison que je dorme. On peut pas dormir, on a vu trop de choses.
Parfait, à votre aise les enfants.
Joli résumé au passage de tout le début du film et notamment la scène magnifique du manège, hein, les chevaux de bois qui sortent du carrousel et qui s'élancent. Elle repartira, dit-elle, quand le vent tournera. Mary Poppins est-elle une fée, Hélène Druvert ?
Alors, je la vois pas tout à fait comme une fée, je la vois plutôt comme une magicienne. Et donc c'est un peu différent parce qu'elle a ce côté qui amène de la magie dans le quotidien. Mais elle est ancrée dans le quotidien. C'est ça qui rend, justement, je trouve, l'ensemble complètement magique. C'est-à-dire que la magie survient vraiment dans un quotidien très réel. On n'est pas dans un univers féerique au début du film, par exemple.
C'est beaucoup plus compliqué de mettre de la fantaisie, de la magie dans la vie quotidienne que dans un univers merveilleux.
Oui.
Laurent Mignard, c'est une fée pour vous ?
Écoutez, j'ai une approche un tout petit peu différente parce que cette scène que vous nous avez fait écouter m'a fait penser les enfants, en fait, pour eux, c'est réel ce qui s'est passé. Et Marie leur dit, mais non, vous êtes en train d'inventer tout ça, je n'ai pas fait.
Elle nie.
Et en fait, l'impression que ça me donnait, c'est la relation qu'on a au rêve. On pourrait instiller le doute sur le fait que, mais non, tu as rêvé. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est le rêve est-il réel ?
Mais nous, on l'a vu aussi. Alors, oui. Ils n'ont pas rêvé.
Oui, mais le rêve est-il réel ? Quand on rêve, on a l'impression que c'est réel. Et pourtant, c'est un peu comme la musique, le rêve, c'est invisible, c'est inodore. Et pourtant, si c'est arrivé dans mon esprit, c'est qu'il s'est passé quelque chose.
Écoutons des enfants. Juliette Proutot a promené son micro dans les rues et dans les parcs de Paris. Elle leur a demandé d'imaginer à quoi ça ressemblerait si Mary Poppins était leur nounou.
Je leur ai dit, comme elle peut faire apparaître des... Elle fait apparaître des choses, ouais. Et ben, je leur ai dit, par exemple, on a envie de manger tout ce qu'on veut. Et ben, elle te le fait apparaître. J'avais dit, elle te fait apparaître un hamburger frite. Mais aussi le jeu dont tu rêves et peut-être que tes parents, ils voulaient pas te l'acheter.
Moi, bah, de toute façon, si elle passait après celle que j'aimais pas, n'importe quelle nounou aurait été bien. Donc, j'en sais rien, mais avoir une nounou magique, ça satisfait toujours.
Pouvoir voyager n'importe où avec elle. Bon, le tourisme gratuit, mais écologiquement propre.
Moi, je demanderai à ma babysitter de me fabriquer une console avec ta baguette magique, là. Je joue aux jeux vidéo une heure, et après, le lendemain matin, me construire une cabane, comme ça, je pourrai inviter mes amis.
Moi, je lui demanderais de sortir tout ce que je veux de son sac. Je sais pas, plein de...
J'aurais voulu voler avec elle. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et elle a de la magie.
Moi, je veux pas ranger ma chambre. Je veux juste faire de la magie.
Bah, me faire des châteaux dans ma chambre.
Moi, j'aurais voulu qu'elle me prenne son parapluie et son sac. Vraiment, son sac. Ouais, son sac, il est top. Il est incroyable.
Moi, si elle pouvait me garder maintenant, je pique son parapluie, je vais dans un autre pays qui n'a pas de confinement.
C'est clair.
Excellente idée. On mange ce qu'on veut, on voyage, on joue à la console et on ne range pas sa chambre. Ces enfants ont-ils une vision erronée de Mary Poppins, à votre avis, Hélène Druvert ? Parce qu'après tout, elle ne laisse pas tout passer en réalité, hein, ni dans le film, ni dans le roman.
Oui, exactement. Elle est quand même, elle est assez juste, mais les enfants ont intérêt à quand même à lui obéir, à respecter des choses, à être polis. Donc non, elle ne leur offre pas ce qu'ils veulent. elle distille vraiment de la magie. Et comme disait Laurent Mignard tout à l'heure, à chaque fois, elle leur dit en fait que non, ça ne s'est pas passé, mais elle leur laisse un petit indice quand même. En tout cas, dans les livres, moi j'ai ce souvenir-là, qu'à chaque fois, il y a un petit souvenir qui est laissé, où en fait, elle leur dit non, c'est pas vrai, vous avez rêvé. Mais en fait, c'est vrai quand même. Elle laisse toujours un petit indice. Ça, c'est toujours assez bien vu de sa part. Par contre, les enfants doivent vraiment respecter, ranger leur chambre, être polis. C'est l'éducation un peu à l'anglaise. C'est quand même la nanny anglaise avec une certaine tenue à avoir.
Est-ce pour ça qu'elle vous plaît autant, Hélène Druvert? Il y a une silhouette emblématique. C'est devenu un personnage iconique, notamment grâce à ce chignon bien mis, ce parapluie bien propre, cette tenue élégante. Ça compte beaucoup dans le succès du personnage.
Oui, je pense qu'elle a vraiment une silhouette qui est iconique. Et ça, finalement, il n'y a pas tant de personnages que ça qui graphiquement sont reconnaissables au premier coup d'œil, juste avec une ombre, parce qu'en fait, voilà, on voit l'ombre de Mary Poppins, il y a ce sac, ce parapluie, le fait qu'elle s'envole, elle tient toujours les pieds aussi un peu écartés, elle a ce chapeau à fleurs avec le chignon, et ses grandes robes un peu à l'anglaise. Moi, ça m'intéressait beaucoup, ce côté iconique, justement, d'offrir en fait un regard aujourd'hui sur ce personnage.
Il est grand temps de l'écouter chanter, Mary Poppins. Vous ne trouvez pas, Laurent Mignard? Écoutons une chanson du film interprétée par Julie Andrews qui crève l'écran, il faut le dire, dans le film original. On va l'écouter en VO, en anglais, mais voici d'abord un peu de version française.
Supercalifragilisticexpialidocious, ce mot est un vrai calvaire pour pas les chatouilles. Si vous le dites d'entre vous, devenez prodige. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to say, we ain't the nose.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
He travelled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me after tea.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Que vous soyez pâtissière, mi-comtesse ou bergère, Marie Chantal ou Chichi, la fille, la pâtissière. Supercalifragilisticexpialidocious.
Julie Andrews en duo grâce au montage de Christophe Imbert avec cette petite fille qui a un peu réécrit les paroles, mais c'est pas mal non plus. Laurent Mignard, évidemment, vous allez me dire ce mot magique, cette formule de Mary Poppins.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Impressionnant. Il n'est pas dans le roman d'origine, ce
non,
mot.
Il n'est pas dans le roman d'origine et les plus des deux tiers du film ne sont pas dans le roman d'origine. Mmh. Ce sont vraiment des inventions à partir du personnage. Mais Julie Andrews, qui était quasiment débutante au moment du film, a eu un succès énorme. Elle a même été faite commandeur dans l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth, qui est quand même pas rien du tout.
C'est pas rien au Royaume-Uni, ouais. En effet. Non, sacré non. Morceau hein, que cette chanson. C'est une performance pour l'interprète.
C'est une performance. Alors nous, on a eu à la fois une chance et un problème. Quand on a créé le spectacle, on s'est posé la question: qu'est-ce qu'on allait faire de cette Mary Poppins? Parce que c'est vrai, quand on a voulu créer le spectacle pour les enfants...
Jazzy Poppins, hein, qui se passe sur les toits de Londres, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Oui. En fait, le point de départ, c'était de se dire on voudrait créer un spectacle pour enfants avec la musique de Duke Ellington, et on s'est dit bon, on va travailler sur Mary Poppins, mais on peut pas faire le Mary Poppins, on n'a pas les moyens de Broadway. Donc on a pris un artifice qui est que le personnage principal de notre narration était Jeanne, qui entre-temps a grandi. Et cette Jeanne, qui est nounou, mais qui a un peu oublié comment ça se passait avec les enfants. Elle est très triste quand les enfants s'en vont. Elle a oublié cette part de rêve. Et elle se confie à un chef d'orchestre, Ramoneur, avec son orchestre.
Il y a quelques parallèles, oui, effectivement.
Ouais, quelques parallèles. Mmh. Et moi, je suis un petit peu dans le pendant de Burt, et elle est dans le rôle un peu de Jeanne. Et en fait, elle raconte Mary Poppins. Et on a travaillé sur les paroles en français qui ont été réécrites par le fameux Lucien Hadès. Mmh. Et c'est des paroles qui font clairement pitié. Enfin, je veux dire, les enfants ont été beaucoup plus créatifs que le fameux Lucien Hadès.
D'ailleurs, c'est l'occasion de reparler du morceau qu'on a entendu au début. Le morceau de sucre, c'est une traduction en français désastreuse, hein, parce que c'est qui aide la médecine à couler.
Bah,
en fait, la médecine, c'est le médicament. Ça aide le médicament à passer.
Normalement, c'est a spoonful of sugar, donc une petite cuillère, une cuillère à café de sucre qui aide le médicament à passer.
Ça fait passer la pilule, quoi.
Ouais, c'est ça. Mmh. Mais la traduction est affreuse. Mais bon, c'est pas, dans les années 60, au niveau des traductions des chansons anglaises, on n'était pas top top. Mais alors, le problème que l'on avait, comme je vous disais, c'était de faire en sorte qu'on arrive à intéresser les enfants sur l'histoire, leur raconter l'histoire et en même temps les prendre par ce genre de choses. Et supercalifragilistique, en fait, c'est le mot qui déclenche dans notre spectacle le fait que Jeanne se dit « Ah oui, mais c'est vrai, il y avait ce mot que nous racontait tout le temps Marie » et ça déclenche la chanson. En fait, on
ça
est dans
la, porte du
dans la remémorisation en fait, du film qu'on a vu, elle de ce qu'elle a vécu et ce qui nous prétexte à jouer.
Il n'y a pas de raison que je ne teste pas aussi l'autre invitée, Hélène Druvert. Allez-y, c'est à vous de prononcer le mot.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Ah, on ne les choisit pas au hasard, hein, les invités de Barbatruc. Quel effet il vous fait, ce mot?
Ah bah moi j'adore, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Je me rappelle très bien qu'on s'amusait avec mon frère à réciter ce mot. C'était vraiment une chanson qui a bercé mon enfance.
Et c'est un mot qui a des pouvoirs magiques et c'est un mot inventé par une nounou. Quelle relation les enfants construisent-ils avec leur babysitter, avec leur nounou, avec leur nourrice? Quelle est la nature précise de ce lien? Voici quelques réponses glanées par notre reporter.
Dorothée Barba sur France Inter.
J'ai eu, on va dire en tout, parce que je ne les ai pas comptés, j'ai dû avoir 5 nounous dans ma vie. Elle me ramenait juste, ou elle me faisait les devoirs aussi, elle me ramenait de l'école à chez moi. J'en avais qui étaient super cool, et j'en avais surtout une que j'aimais vraiment pas. Parce que, par exemple, à l'école, on organise des goûters, et il y a des bouteilles de 2 litres. J'avais 6 ans, elle voulait pas porter mon sac. Du coup, j'ai dû vraiment porter pendant quoi, 30 minutes, ce sac de 2 litres, qui fait quoi, 2 kilos, en plus de mon sac de cours. Donc c'était un peu lourd, mais je l'aimais pas, elle s'est faite virer, voilà.
Non, ça j'ai eu ça très petite, mais c'était un bon souvenir, parce qu'après moi c'était, genre toutes mes nounous que j'ai eues, elles appartenaient tous à la même famille, c'était les frères et sœurs, du coup je les connaissais bien.
Non, c'est être à l'écoute des enfants, ils ont envie de raconter leur journée, bah tu les laisses raconter quoi. Ouais, ça ouais, remplace un peu la mère, parce que si elle est pas là après le travail, c'est un peu...
Pas rester indifférente et pas rester sur son téléphone, juste on les laisse avancer et nous on surveille quoi.
Bah, il y en a, ils sont restés une seule fois, il y en a, ils sont restés beaucoup de temps. Par exemple, une babysitter s'appelait Léa, elle est restée beaucoup, elle était très gentille et tout, elle était sympa. Et après, on en avait une autre qui s'appelait Maëri. Et en fait, quand elle était italienne et tout, on nous laissait faire plein de choses. Enfin, elle était vraiment gentille. En plus, elle habitait dans notre immeuble, alors du coup, c'était bien.
Ah, j'ai des bons souvenirs. Un jour, je me suis fait écraser par un vélo. Elle était super gentille avec moi, elle m'a donné des pansements et tout. Non, franchement, en général, elles étaient gentilles. Il y a juste eu un cas qui m'a un peu posé problème, mais c'était super.
C'est mieux parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais des fois, en fait, les babysitters, ils nous disent des choses qu'on doit faire et qu'on n'aime pas des fois.
Il y a un petit truc à la maison. À chaque fois que maman et papa ils sont pas là et c'est la babysitter ou le babysitter qui viennent, et bah à chaque fois on peut pas regarder la télé.
Bah j'en ai eu plein, il y en a que j'aimais bien parce que en fait dès que j'avais une idée de jeu, elle disait tout le temps d'accord. Quand c'est les parents, et ben en fait on fait pas vraiment de choses particulières, mais quand c'est les babysitting, on fait de la fête.
Qu'on peut faire plein de jeux.
Oui, parce que les parents travaillent.
Mais ma nounou d'avant, elle était gentille. Parce que quand il neigeait, on avait fait un bonhomme de neige.
En fait, ils nous laissent faire plus de trucs que les parents. Les parents, comme ils savent tout, nous laissent faire parce qu'elles savent pas trop et tout. Et elles sont plus gentilles avec nous parce qu'ils nous connaissent à peine.
Hyper sympa, la nounou qui donne des pansements quand on se fait écraser par un vélo, ça c'est vrai. Mais j'aime beaucoup surtout cette idée de la nounou, elle est sympa parce qu'elle sait pas. Les parents, ils savent, donc ils sont moins sympas. C'est assez étonnant ces paroles d'enfant, Hélène Druvert.
J'aime bien en effet le côté la babysitter, elle sait pas. En fait, comme ça, ça nous permet de faire des trucs qu'on peut pas faire avec les parents.
Il y a une idée de transgression hein, quand les parents sont pas là.
Exactement.
On n'a pas encore entendu le ramoneur Bert, le pote de Mary Poppins, incarné dans le film par Dick Van Dyke, doublé par Michel Roux en version française. Le voici, l'inénarrable ramoneur.
Asseyons-nous. Vous savez, je vous demande pardon, mais je serais plutôt du côté de votre papa. Enfin, songez qu'il est dans cette froide et sinistre banque toute la journée, étouffé sous des monceaux de pièces glaciales et de billets. Moi, je déteste voir des gens vivre dans une cage.
Père, et dans une cage ?
On fait des cages de toutes les tailles, de toutes les formes. Des belles cages en forme de banque avec des tapis.
Ce n'est pas père qui a des ennuis, c'est nous deux.
Oh, vous êtes bien sûr de ça ? Voyons la question d'une autre façon. Vous avez votre mère qui s'occupe de vous. Et Mary Poppins, et l'agent de police John, c'est moi. Et qui s'occupe de votre père, hein ? Dites-moi ça. Et quand il lui arrive quelque chose de terrible, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il faut qu'il se débrouille tout seul. Et à qui est-ce qu'il peut en parler ? À personne. Hein ? Il raconte pas ses ennuis chez lui. Eh non. Et après, il retourne à son travail, et sans se plaindre, tout seul et silencieux.
Oh non, il n'est pas silencieux du tout. Michael, veux-tu te taire ? Père, vous croyez que père a besoin que nous l'aidions ? Dites-moi.
Oh ben, ça c'est pas à moi de le dire. Mais pour un papa, c'est toujours un réconfort de savoir que ses enfants l'aiment. Allez, venez, je vous ramène chez vous.
Pauvre papa Banks. Laurent Minière en parlait à l'instant des négociations entre Pamela Travers, l'autrice du roman original, et Walt Disney pour l'adaptation au cinéma. L'écrivaine a tenu bon, mordicus sur un point, elle ne voulait pas de relation amoureuse entre Mary Poppins et le ramoneur. Elle a obtenu gain de cause. C'est vrai que c'est tentant quand on s'attaque à cette histoire, quand on re-raconte Mary Poppins, de les faire tomber amoureux, ces deux-là.
Oui, mais enfin, Walt Disney est très malin, on le sent, on le voit. Elle est là, elle est réelle, la relation. Elle n'est pas montrée, mais on le sent, c'est très puissant. Ça se voit.
Hélène Druver ?
Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, moi, ça a été ma plus grosse frustration dans mon livre, c'est de ne pas illustrer ce passage des ramoneurs. Que j'adore et qui est vraiment un souvenir d'enfance avec ce personnage qui est génial. Et voilà, pour des histoires de droit, nous on est parti sur les autres tomes de Mary Poppins, mais ce personnage il est très important et je suis d'accord, à l'écran ça transparaît. Quand on est enfant, on ne sait pas exactement ce qu'il y a entre eux, mais on comprend qu'il y a quelque chose.
Non, mais enfin, sérieusement, quand vous allez en promenade à la campagne avec des enfants, que vous allez envoyer vos enfants jouer sur un manège et que puis pendant ce temps-là vous faites une promenade pour aller danser avec
entre
une jeune femme
personnes.
Entre grandes personnes à la campagne, bon, voilà, les enfants ont compris qu'il se passe quelque chose.
Votre livre, Hélène Druver, effectivement, reprend les autres romans de Pamela Travers et notamment cette histoire d'exploration sous-marine. Ça donne des pages absolument sublimes. Vous découpez, hein, je le rappelle, dans vos pages. C'est un livre en noir et blanc. Pourquoi ce choix ?
Alors, c'était un choix qui s'est un peu imposé parce que on voulait se différencier vraiment du Walt Disney. Le film Walt Disney a toutes ses couleurs qui sont superbes et fantaisistes. Et en fait, nous, on avait envie vraiment de donner la puissance aux découpes et de rester sur ce côté ombre chinoise pour laisser l'imagination des enfants vagabonder.
C'est un livre qu'il faut lire aux enfants avec une lampe de poche à la main. Comme ça, on projette les images sur le mur.
Exactement. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais avec mon fils. Et je sais qu'il y en a beaucoup de parents qui le font. Et on a du coup vraiment cette idée, en fait, de rentrer dans une autre dimension, la dimension du rêve.
Très très bel objet que ce petit tour avec Mary Poppins, édition Gauthier Langros. Nous reprenons ces échanges dans un instant, mais on reste en Grande-Bretagne, tenez. Voici la Britannique Céleste, le choix de Jean-Baptiste Audibert. Love is back.
Love is back. Love is back. Love is back. Get your
glass full, so I did, and I saw you.
On se promène avec une gouvernante britannique excentrique ce dimanche. Mary Poppins est l'héroïne de Barbatruc avec Laurent Mignard, chef d'orchestre, créateur du spectacle Jazzy Poppins, et avec Hélène Druvert, autrice et illustratrice. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé tous les deux du film sorti en 2018 avec Emily Blunt dans le rôle de la nounou, Le Retour de Mary Poppins. Laurent Mignard.
Alors, comment dire? C'est normal, il est dans la tonalité d'aujourd'hui. Il y a du grand spectacle, il y a du gros son, il y a des images de synthèse, etc. Mais je trouve que la magie est totalement perdue, qu'il y a des méchants avec des courses-poursuites qui n'a rien à voir avec le sujet de Mary Poppins, et surtout le sens général du film. Autant le sens de Mary Poppins, c'était, en fait, chacun doit choisir son destin. Et chacun doit prendre son chemin, doit aller à son propre rythme, réenchanter son quotidien et faire entrer en lui sa part de rêve. Mmh. En revanche, le sens, le final du retour de Mary Poppins, c'est pour sauver la situation des enfants Banks. Ce sont les fameuses pièces qui avaient été mises à la banque, qui ont fait des petits et qui ont généré une fortune. Et là, c'est une ode à l'institution financière, mais qui est juste le contre-pied total de ce qui était avant.
On est dans une famille de banquiers.
Oui, sauf que le banquier, il est allé dans la rédemption. Le père est allé dans la rédemption, mais par contre, le retour, ça nous donne totalement l'inverse.
Hélène Druvert, qu'avez-vous pensé de ce film ?
Je n'en ai quasiment aucun souvenir.
Ah, ce qui en dit long. Les chansons, notamment, ne sont pas du tout mémorables.
Oui. Non.
Il reste rien des chansons. Ça, c'est terrible. Ça dit quand même beaucoup de choses.
Il n'y a pas la magie de Mary Poppins.
Eh bien, on retourne avec enthousiasme à l'original. Il ne faut pas oublier d'évoquer un point important. Le militantisme de la maman. Madame Banks est une suffragette. Elle milite pour que les femmes aient le droit de voter.
Voici les soldats de la révolte qui font la croisade pour que toute femme vote. On sait qu'un homme a des tas de qualités, mais on doit bien dire qu'en groupe, il est très stupide.
Madame Banks.
Laissons donc la querelle d'hier. Toutes dans l'union, menons notre guerre. Devenons de nos mères les vengeresses et que nos filles disent et reconnaissent. Voilà,
Madame Banks.
Qu'il y a, Cathy Nounou ?
Voilà, on entendait à l'instant la nounou d'avant, celle qui démissionne, celle qui jette l'éponge avant que Mary Poppins ne tombe du ciel. L'histoire se passe en Angleterre à l'époque édouardienne, au tout début du XXe siècle. Les femmes, il faut le préciser, ont obtenu le droit de vote outre-Manche en 1918, à partir de 30 ans, et en 1928, dès leur majorité. En France, rappelons-le au passage, l'égalité homme-femme au bureau de vote a été obtenue en 1944. Hélène Druvert, quel regard vous avez-vous sur ce personnage de Madame Banks ?
Je l'adore, j'y ai pas touché dans le livre parce qu'en fait, vu que c'est un livre où il y a peu de pages, je me suis vraiment concentrée en fait sur la relation entre les enfants et Mary Poppins. Mais je trouve que le personnage de la maman, il est ultra moderne en fait.
Il est très moderne en effet, mais si on est un peu rabat-joie, on peut aussi faire cette lecture. Après tout, ce sont des mauvais parents qui s'occupent très peu de leurs enfants. Leurs enfants s'ennuient avant que n'arrive Mary Poppins. On a presque envie d'entendre, elle est fatigante, hein, cette militante féministe, elle ferait mieux de s'occuper de ses enfants.
Alors moi j'ai pas eu envie d'entendre ça, mais je peux comprendre, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient pensé ça. Moi j'ai trouvé, je voyais plutôt Mary Poppins qui venait aider la famille, mais aussi pour que la maman puisse continuer son combat en fait.
Laurent Mignard.
Oui, mais je crois qu'il faut restituer également. Walt Disney restitue le film dans son contexte aussi. C'est-à-dire que au début du XXe siècle, les parents ne passent pas de temps avec les enfants.
On ne joue pas avec les enfants.
Les nouveaux papas qui changent les couches comme moi je l'ai fait, ou les mamans qui passent leur soirée avec leurs enfants pour raconter des histoires, c'était réservé aux nounous. Mmh. Les parents avaient leur vie. On faisait des enfants pour la succession du nom. Non, je crois que ce qui m'intéresse, c'est que le personnage de la maman, il est en effet très intéressant, mais c'est une sorte d'anti-modèle féminin. En fait, il y a deux modèles féminins dans ce film. Il y a celui de Mary Poppins et celui de la mère. Celui de la mère qui est quelqu'un de révolutionnaire en son temps, mais qui donne l'impression de tourner un petit peu à vide. Et en revanche, Mary Poppins, elle, c'est un modèle féminin, mais qui va sauver le monde par le rêve. Elle ne rêve pas, en fait. Elle se bat, la mère. Elle ne rêve pas, elle se bat pour un idéal. Alors que Mary Poppins, elle a déjà touché son idéal. Elle est déjà sur sa planète et elle emmène les gens sur sa planète. C'est marrant parce que les enfants ont finalement pris cette petite graine de Mary Poppins et ils ne prennent modèle ni sur le père ni sur la mère.
On peut mélanger peut-être les deux modèles féminins pour faire un personnage idéal.
Ah, ça, ce serait l'objet du troisième film.
Hélène Druvert.
Oui, c'est marrant parce que moi, dans mon livre, du coup, les parents sont complètement absents. Oui. Parce que finalement...
Personnage très secondaire, effectivement.
Oui, pour moi, et je pense que c'est vrai que c'est dû aussi à l'époque, finalement, les parents sont complètement secondaires et les enfants sont finalement assez livrés à eux-mêmes avant que Mary Poppins, elle arrive. Donc du coup, moi, c'était vraiment la relation avec Mary Poppins qui m'intéressait. Et finalement, c'est vrai que les parents n'ont pas un rôle éducatif avec les enfants Banks.
Les enfants livrés à eux-mêmes, en effet, avant que n'arrive Mary Poppins et qu'elle apporte de la fantaisie dans leur vie. Les adultes sont-ils capables de fantaisie? Voilà une question très épineuse. C'est évidemment aux enfants et aux ados d'y répondre.
Les adultes, en général, ils veulent plus voir les dessins animés. C'est dans les dessins animés, je trouve qu'on a ça. Ça veut dire que ça nous ramène en enfance. Moi, je regarderai toujours des dessins animés juste pour ça. Ils ont sans doute plus de responsabilités. Et on leur dit, si par exemple, un adulte vient et commence à se conduire comme un enfant, à penser, etc., on va lui dire, ah, mais t'es pas mature. Non, donc, je pense qu'ils se forcent un peu et la société fait qu'ils doivent être matures et ne plus regarder ça de la même manière.
Moi aussi, je pense que c'est des codes et que les gens, ils essaient de rentrer dans des cases, quoi.
Adultes. Par exemple, mon père, voilà, et ben, c'est un enfant, mais dans un corps d'adulte. Mais du coup, il a toujours cette fantaisie.
Parce que eux, ils ont beaucoup de travail, et du coup, ils pensent souvent que au travail. Et oui, alors que nous, on va à l'école et on fait pas. Enfin, on travaille, oui, mais en dehors, on dessine, on joue et tout. Enfin, les enfants, ils jouent, alors qu'eux, ils cuisinent.
Mais il y a un truc, c'est qu'en fait, eux, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent pour faire un petit goûter quand c'est pas l'heure du goûter. Nous, on doit respecter les heures.
Ils font dodo, ils travaillent, ils payent,
ils passent trop de temps sur leur ordinateur.
Oui, souvent, ils regardent le soir quand on est couché, ils répondent qu'à regarder la télé.
En plus, à chaque fois, ils disent « Je dois vérifier mes mails. Oh non, je dois vérifier encore mes mails. Encore une fois, j'en ai encore beaucoup trop. J'en ai encore pour une heure. »
Après, là, on dit, « Tu peux jouer avec moi ?» Après, on dit « Non, je travaille. » Oh non, mais on peut jamais jouer avec eux.
En plus que des fois, en fait, ma maman, elle joue des fois un peu à des... Non, elle regarde des trucs. Au lieu de travailler, elle travaille en même temps de regarder la télé. Mais quand même, tu regardes la télé.
Par exemple, j'aimais bien quand mon papa, il avait pas de travail. Et donc, on pouvait jouer souvent avec lui. Alors que maintenant, il a beaucoup trop de travail. Il doit même travailler le week-end et maman aussi.
Et tellement qu'il regarde tous les soirs, et il connaît 3 milliards de séries. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je pense qu'ils en connaissent presque tous. Plus que nous, ça c'est sûr.
J'ai
Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheree. A sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. And that's lucky too. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheree. A sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with you.
Un autre tube du film Mary Poppins. Alors, on a bien compris dans le reportage de Juliette Proutot, c'est à force de vérifier nos mails qu'on oublie, nous autres les adultes, de mettre de la fantaisie dans nos vies, Laurent Mignard.
Non, ils ont pas tort, les enfants. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je pouvais rester des heures à regarder l'herbe pousser. Et je me racontais plein d'histoires. Et puis, ensuite, avec mes frères, on avait des petites voitures, et puis on s'inventait des histoires avec juste deux voitures, un bout de ficelle. Et je reconnais qu'avec le temps, on perd ça. C'est vrai. Ils ont
Alors,
raison.
On re-regarde Mary Poppins pour que ça revienne, Hélène Druvert.
Oui, oui, je pense qu'il faut jamais arrêter de voir des dessins animés. Je pense que les enfants ont raison. Il faut essayer de garder cette âme d'enfant. C'est vrai que quand par l'enfance, on perd cette capacité, d'imagination totale à partir de quasiment rien. C'est peut-être ça la fin de l'enfance.
Quelle est votre scène préférée dans ce film, Hélène Druvert ?
Moi, dans le film, c'est vraiment la scène avec les ramoneurs. Je crois qu'il m'a vraiment marqué.
Et vous, Laurent Mignard ?
Quand je l'ai vu, quand j'étais enfant, c'était également la scène avec les ramoneurs, parce qu'il y avait beaucoup d'énergie, et puis qu'ils étaient classe, tous ces ramoneurs. Puis quand on est un petit garçon, on a envie d'être comme eux. Et puis avec le temps, en fait, ma scène préférée, c'est devenu celle des pingouins, qui font le service dans la campagne et qui font des numéros de claquettes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a invité Fabien Ruiz.
Mais voilà le jazz, là, encore.
Et oui, oui, ouais. Bien sûr. Et là, on a réécrit, d'ailleurs, un numéro. Pour le coup, là, c'était pas dans le film. On a réécrit le numéro de claquettes avec Fabien Ruiz. Vous savez, Fabien Ruiz, c'était le coach de Jean Dujardin dans le film The Artist et qui travaille avec nous sur le spectacle. Et ça nous donne l'occasion d'apporter également cette fantaisie sur le spectacle. Les claquettes, les enfants, ils aiment bien.
Et que dire de Mary Poppins sur le plan éducatif, pédagogique, Hélène Druvert ? Que pensez-vous de sa façon d'élever les enfants, de sa relation avec eux ?
Elle a une relation, alors je dirais pas éducative, mais en fait chaque aventure, finalement il y a une petite, pas une petite morale, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas elle cherche à leur apprendre des choses. Par cette façon-là. Moi, dans le livre, ce qui m'avait un peu surpris, c'était le fait que elle ne donnait pas beaucoup d'affection aux enfants. C'est-à-dire que les enfants venaient pour avoir un câlin et elle leur disait « Ah mais non, t'es tout sale !» Voilà, donc heureusement qu'on n'a pas ça dans le film. Mais c'était aussi, je pense, l'époque hein, qui voulait ça. C'est-à-dire que on ne faisait pas beaucoup de câlins, je pense, aux enfants. Il fallait apprendre des choses, mais pas forcément leur donner...
De l'affection.
Voilà.
Elle a des slogans pleins de sagesse, hein, ne jamais juger les choses d'après leurs apparences, et puis une philosophie très optimiste, voir le bon côté des choses à tout point de vue. Et ça, ça passe surtout par la musique, Laurent Mignard.
Oui, c'est vrai, ça passe par la musique, mais la musique, en fait, c'est un adjuvant de bonne humeur, finalement, qui permet de faire passer des choses. Pour vous doutiez, est-ce que Mary Poppins éduque les enfants ? On voit bien que les anciennes nounous, c'est un échec, puisque les enfants font des bêtises. Et quand Mary Poppins, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle les éduque pas, en fait, elle leur transmet des valeurs, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et elle le fait par le côté sucré, par la fantaisie, par le rire, par la confiance. Et elle leur ouvre un univers absolument prodigieux. Et je crois que c'est ça le message aux parents. Occupez-vous de l'univers de vos enfants, transmettez vos valeurs, pour le reste, ils vont très bien se débrouiller.
Mary Poppins est disponible sur Disney+, et sur d'autres plateformes de vidéos à la demande. Il dure 2h20, mais les enfants trouvent rarement que c'est trop long. Vous confirmez, Laurent Mignard ?
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Quant au roman de Pamela Travers, la créatrice de Mary Poppins, et notamment le premier, ils sont disponibles en livre de poche. Par Patrick.
Si le battement presse ta poitrine avec force à te donner l'envie de t'élancer dans le vide sans raison, sans filer, sans compter le temps qui défile. Une avalanche t'escorte, laisse-la franchir les terres.
du jour.
C'était Mes Sparrow sur France Inter. Ce fut un plaisir de passer ce petit moment au 17 Allée des Cerisiers chez la famille Banks avec Laurent Mignard et Hélène Druvert. Vous ne bougez pas tous les deux. On va écouter à présent L'as-tu lu mon petit loup ? Denis Chessou surveille de près le rayon jeunesse des librairies. Voici ses coups de cœur.
Dorothée Barbaz sur France Inter. L'as-tu lu mon petit loup ?
Merci Dorothée, voici donc l'actualité du livre pour enfants. Et après le succès de Nuit étoilée de Jimmy Liao, les éditions Hongfei sortent en France cet album de 2003 du même créateur, Le poisson qui me souriait à partir de 7 ans. Donc c'est l'histoire d'un homme gentil et seul qui, dans un aquarium géant, a vu un poisson qui lui souriait.
Un jour, je suis rentré chez moi avec le poisson. Aussi dévoué qu'un chien, aussi affable qu'un chat, attentionné comme une amoureuse.
Alors, anthropomorphisme de base à fond, un poisson qui semble vous sourire, bah bien sûr qu'il est heureux comme un chien qui remue la queue. Et une nuit, dans un rêve, le bocal et son poisson volent en brillant, d'une lumière verte dans les rues, sur les ponts, en forêt.
Ils s'envolent au-dessus de la mer avec grâce. Nous plongeons tous les deux dans l'eau claire et froide de l'océan.
Il nage sans entrave dans la mer de son rêve et se cogne à la paroi de ce qui est un aquarium géant infranchissable. Alors là, panique. Et à son réveil, il regarde son poisson chéri dans son petit bocal.
Mais tout à coup, ce sourire me rend triste.
Cela s'impose, remettre ce poisson en liberté. Alors il traverse la ville, le pont, il prend le car, arrive à l'océan et le glisse dans la mer.
Cette fois, j'ai bien dormi, profondément. Un dernier sourire et les amis se séparent, heureux.
Alors avec la force de la fable, la tendresse du récit et la beauté des images, crayon et acrylique, on aborde en fait le thème de la relation à l'autre, mais sans contrainte. La remise en liberté des animaux, avec cette notion très asiatique d'apprendre à se détacher de son désir. Se détacher en libérant le poisson. Donc il y a aussi un appel à la conscience individuelle et à notre capacité d'empathie avec le vivant.
Denis, à qui Jimmy Liao dédicace-t-il ce livre ?
Alors, en fait, c'est intéressant parce que c'est à ses médecins, infirmiers, qui l'ont guéri d'une maladie qu'il pensait incurable. Et dans son isolement forcé, il est resté quelques semaines derrière une paroi de verre. En fait, donc un joli livre sur ce qui nous libère, avec vraiment du Sempé, du Magritte, du Van Gogh, de l'Anthony Brown, pardon pour mettre les références sont quand même superbes, qui sont derrière, et la poésie comme trait d'union. Le poisson qui me souriait aux éditions Hongfei, c'est à partir de 7 ans. Pour les tout-petits, à partir de 1 an cette fois-ci, Dodo est signé Charlie Deloire et Marguerite Courcieux aux éditions Marcel et Joachim. Le silence s'épaissit à mesure que la lumière décline. Chut ! Il faut aller dormir.
Tu ne dors pas encore ? Mais il faut faire dodo maintenant. C'est la nuit et tout le monde fait dodo.
Tous les gens que l'on aime vont dormir. La famille, les amis, mais aussi ceux que l'on ne connaît pas.
Les Belges aussi font dodo. Les Japonais, les Indiens.
Au moins la moitié de la Terre fait dodo. Et pas que les humains.
Mais les chiens, les chats, les ours, les loutres, les licornes.
Et qui d'autre encore ?
Ton doudou aussi fait dodo.
Comme tous les objets de la maison d'ailleurs.
Ton oreiller, ta couette fait dodo. Chut, il ne faut pas les réveiller.
Mais une question se pose.
Pourquoi c'est la nuit ?
Ah, c'est simple, c'est parce que le soleil, lui aussi, est parti s'endormir.
Mais en attendant, c'est la lune qui est là. Et les étoiles. Tu entends ? Tout est calme.
Alors il ne reste plus qu'une chose à faire.
Tu sais fermer les yeux ? Tu me montres ? Super, ne bouge plus maintenant. Reste comme ça.
Et ce n'est pas grave de rouvrir les yeux. Cela permet d'observer autour de soi.
Alors, regarde. Toute ta chambre fait dodo, sauf ta veilleuse.
Mais c'est la seule exception.
Tous les livres font dodo, et les mots à l'intérieur. Ce livre aussi, bientôt, dès qu'on le fermera.
Et ce sera alors le moment de se laisser emporter par le plus réconfortant des sommeils. Quand on prononce le mot dodo, il s'en dégage du réconfort, de l'insouciance. Et c'est exactement ce que l'on trouve dans cet album. Donc un livre sur mesure pour accompagner les tout-petits dans leur sommeil. Rassurant, fantasque, complice. Le coucher s'apparente ici à un petit bonheur. Et en témoigne d'ailleurs la jovialité des illustrations. Puis vous avez aussi le jeu des visages qui sont croqués jusque sur les choses les plus improbables. Donc un livre joyeux pour s'endormir, même pour les plus récalcitrants. Dodo, c'est aux éditions Marcel et Joachim à partir de 1 an. Merci à Xavier Pestugia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala pour sa coécriture, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup, Denis Chessou. Les livres cités sont à retrouver sur le site de France Inter, à la page de Barbatruc, rubrique « L'as-tu lu, mon petit loup ?». Nous approchons de la fin de cette émission. Laurent Mignard et Hélène Druvert ont chanté en chœur les louanges de Mary Poppins. J'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. Question rituelle, j'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Hélène Druvert.
Alors moi, l'odeur de mon enfance, je dirais la colle Cléopâtre. Ah. La colle qui était dans un petit pot. Là,
ça sent l'amande.
Voilà, ça c'est une odeur où si j'ouvre un pot de colle comme ça, tout de suite je repars 30 ans en arrière.
Et ça c'est une marque qui donne votre âge immédiatement à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Laurent Mignard, même question, quelle est l'odeur de votre enfance ?
L'odeur de mon enfance, ça vous paraîtrait étonnant, mais c'est la pulpe de pomme pressée et le jus de pomme tout frais, puisque en fait dans ma famille on faisait du cidre de père en fils et j'étais tout le temps dans la cidrerie familiale et c'est cette odeur que je...
Vous êtes né dans une cuve.
Oui, je suis tombé dans une cuve quand j'étais petit.
Je les adore, les odeurs de cette semaine, la pulpe de pomme et la colle Cléopâtre. On les met sous cloche, elles vont rejoindre la recette secrète très complexe du parfum de l'enfance. Grand merci à vous deux. Je recommande Jazzy Poppins, le spectacle de Laurent Mignard. C'est disponible en CD et sur les plateformes de streaming. Ce sont des chansons en français mais avec la version de Duke Ellington. Donc c'est une initiation au jazz absolument savoureuse. On trouvera un lien à la page de Barbatruc avec toutes les infos sur votre orchestre de fanatiques de Duke Ellington. Laurent Mignard, ça s'appelle le Duke Orchestra. Un petit tour avec Mary Poppins. C'est un livre d'une délicatesse et d'une poésie infinie aux éditions Gauthier-Langereau. Un livre à lire aux enfants avec une lampe de poche pour faire des ombres chinoises sur le mur. Hélène Druvert, vous avez publié plus récemment un livre tout aussi joliment découpé sur le ciel, édition La Martinière Jeunesse. Très belle soirée à tous les deux. Merci et à bientôt.
Merci pour votre invitation.
Merci beaucoup.
Dans un instant, L'œil du tigre de Philippe Collin. Avec ses invités, ils font leur entrée sur le cours juste après le journal pour un portrait de Roland Garros.